RPL, la radio qui vous donne la parole.
Bonjour et bienvenue sur l'émission La 4 c'est cool. Nous sommes des élèves de 4e au collège de Sainte-Odile à Lambersart. Nous faisons cette émission dans le cadre de l'EPI français. L'EPI veut dire E pour enseignement, P pour pratique et I pour interdisciplinaire.
Nous allons vous parler de la laïcité, la citoyenneté, car c'est le thème qui nous tient à cœur et qui est le thème de cette année. Nous allons vous parler du harcèlement, du recyclage, de l'EMC, des mairies qui mettent des crèches de Noël ou non, et aussi le droit de vote des lycéens. Nous passons la parole à nos deux reporters qui ont appelé les mairies.
Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Benoît.
Et moi, Elena.
Et aujourd'hui, nous allons vous parler de la laïcité dans les mairies pendant la période de Noël. Nous avons interviewé Madame X, qui travaille à la mairie. Voici l'enregistrement.
Pour vous, qu'est-ce que c'est la laïcité ?
Alors la laïcité, en fait, le principe de laïcité, c'est de pas faire de propagande, de promotion ou de montrer si on a une quelconque vocation religieuse ou qu'on a une certaine pratique. Le devoir d'un fonctionnaire est de rester, d'avoir aucun signe ostentatoire. Donc du coup, pour moi, la laïcité, c'est d'être neutre dans ses convictions religieuses et du coup d'accepter et de tolérer tout le monde aussi en fonction de ses orientations religieuses. D'accord. Faire à peu près simple et caricatural, c'est à peu près ça, quoi.
Pour la période de Noël, utilisez-vous une crèche ?
Non. D'accord. Nous n'utilisons pas de crèche parce que effectivement, c'est pas une décision qui a été prise aujourd'hui par notre municipalité.
Trouvez-vous que les mairies de tout le pays, enfin du Nord on va dire, sont-elles toutes laïques dans cette période de Noël ou pas ?
Alors avant oui, maintenant non, parce qu'effectivement à partir du moment où il y a des mairies qui installent des crèches qui sont effectivement la crèche de Noël a un rapport effectivement avec la religion catholique, on ne peut plus considérer qu'on est laïque. On serait encore sur une exposition de rites culturels, de différentes cultures, différentes religions, ça pourrait passer, mais aux fêtes de Noël, mettre une crèche, ça n'a pas de... Enfin, ça a une vocation religieuse, et du coup, pour moi, les mairies n'ont pas à le faire, et que du coup, ça a vraiment une connotation religieuse. Dans ce cas-là, sinon, on le met en plein été, et ça n'a plus rien à voir, et du coup, ça pose de problème à personne. Et c'est un devoir aussi pour une collectivité territoriale, donc une mairie, de ne pas afficher une religion plus qu'une autre.
Merci d'avoir écouté notre rubrique, et à bientôt.
Merci beaucoup pour ce reportage. Nous allons maintenant passer l'antenne à mes deux rédacteurs préférés, Maxime et Julien, qui nous parleront du harcèlement, qui devient de plus en plus fréquent dans les collèges, mais aussi dans les lycées.
Bonjour à tous et à toutes. Julien et moi, Maxime, avons interviewé notre cadre éducatif, Madame Dufour. Un cadre éducatif est une personne qui s'occupe des problèmes au collège et modifie les emplois du temps si l'on peut les modifier. Nous allons donc passer son interview. Vous êtes prêts ?
C'est parti !
En quoi consiste le harcèlement dans un milieu scolaire ?
Alors, le harcèlement dans un milieu scolaire sont plein de petits faits rapprochés de la part d'un élève vis-à-vis d'un autre élève qui fait que l'on parle de harcèlement. Voilà, les élèves ne sont pas forcément capables de dire qu'ils harcèlent, ils sont bien souvent dans le déni. Et en fait, c'est quelque chose de récurrent. À chaque fois qu'on va dire à un élève des choses qui ne sont pas très gentilles, qu'on va faire un geste, etc., on va parler de harcèlement, et quand c'est récurrent, quand ça arrive plusieurs fois, tous les jours, à toutes les récréations, voilà, quand c'est récurrent, méchant, on parle de harcèlement. Alors bien évidemment, on sait que dans les établissements scolaires, il y a toujours des petites disputes. On va pas parler de chaque dispute harcèlement, mais voilà, quand l'élève a peur de la personne, quand il se confie pas et qu'il a peur de la personne, quand c'est récurrent, quand c'est méchant, que l'élève craint de venir en cours, etc., on parle de harcèlement.
Est-ce qu'il y a déjà eu des personnes qui sont venues pour vous voir pour cause de harcèlement ?
Oui. Alors, le terme de harcèlement est souvent donné. C'est pas souvent du harcèlement. Il y a eu déjà des cas. Mais il faut aussi faire attention à ne pas employer ce terme pour toute dispute ou tout mot qui serait donné à quelqu'un.
Comment réagissez-vous dans ces cas-là ?
On voit l'élève qui harcèle, on lui pose des questions sur ce qu'il fait, on lui demande s'il est au courant et s'il se rend compte de ce qu'il fait. Après, on va voir l'autre élève qui est harcelé, pareil, on lui demande ce qui se passe, combien de fois, de quoi il a peur, etc. On voit les parents, on sanctionne, on fait réfléchir là-dessus.
Est-ce que ce sont toujours les personnes qui harcèlent ?
toujours les mêmes personnes qui harcèlent? Pas forcément. Il peut y avoir aussi des personnes qui ont été harcelées, qui deviennent harceleurs, parce que voilà. Mais il faut vraiment faire attention à ce terme de harcèlement, hein, parce qu'on ne peut pas l'utiliser n'importe comment et pour tout.
Jusqu'où pensez-vous qu'un harceleur peut-il aller ?
Il peut aller jusque... ça peut aller jusqu'à ce qu'un élève harcelé se sente vraiment mal. Voilà, le harceleur, il peut dire des mots méchants, il peut taquiner, il peut taper, il peut... Enfin voilà, après ça dépend vraiment du degré de harcèlement.
Que subit la personne harcelée ?
Des moqueries, des mots pas très gentils tous les jours, des méchancetés sur le physique ou... on va donner par exemple, tout simplement, on donne un surnom à un élève. Et puis tous les jours, on va lui dire. Tous les jours, 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 tous les jours. Bah là, on est sur du harcèlement.
Et dernière question, pourquoi certaines personnes harcèlent d'autres personnes?
Alors là, c'est pareil, ça dépend vraiment de la personne qui est harcelée. Ça peut être parce que elle se sent forte qu'en disant des mauvaises choses aux personnes ou en... Voilà, cette question-là, malheureusement, on ne peut pas beaucoup y répondre parce qu'on n'a pas de réponse, finalement.
Merci de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, ça a pris un plaisir fou à interviewer Madame Dufour.
Merci beaucoup, Julien et Maxime. Je passe l'antenne à Maëlle et Lulu pour nous parler du recyclage.
Bonjour à tous. Maëlle et moi-même, nous avons eu le plaisir d'étudier et de rechercher quelques informations au sujet du tri sélectif et du zéro déchet.
Nous avons interrogé plusieurs personnes, comme une dame qui travaille à la mairie de l'Homme,
et un professeur de mathématiques, Madame Huck, qui enseigne au Collège Saint-Odile et à Lambersart, et qui a mis en place le tri sélectif au collège.
Pourquoi avez-vous voulu que la ville de L'Homme participe à l'opération Zéro Déchet?
C'était un enjeu, en fait, d'une nouvelle délibération qui est passée, qui s'appelle L'Homme en transition. Donc, en fait, la ville de L'Homme a acté un certain axe d'enjeux et d'objectifs favorisant l'environnement, le cadre de vie, l'économie, l'écologie, le numérique. Voilà, donc il y avait tout un ensemble d'axes. Et en fait, le zéro déchet en fait partie sur le volet déchets et amélioration des déchets sur la collectivité pour sensibiliser les gens, justement, à diminuer les déchets produits et à les recycler au maximum de leurs possibilités, en fait. Donc c'est une démarche qui suit un petit peu une volonté de la métropole européenne lilloise qui tend aussi à lancer cette démarche et beaucoup d'autres collectivités qui ont appliqué cette politique de façon à éviter tout ce qui est dépôt sauvage, déchets dans les rues et favoriser la diminution des déchets ménagers.
Pourquoi faites-vous le tri sélectif dans votre ville ?
Alors, la collectivité ne fait pas le tri. En fait, tout ce qui est déchets ménagers sur la métropole, la MEL, qu'on appelle métropole européenne lilloise, hein, qui regroupe de mémoire, je ne sais plus le chiffre exact, mais X communes, en fait, donc tout ce qui est recyclage des déchets ménagers est de compétence métropole. Donc la collectivité ne gère pas les déchets ménagers sur sa collectivité au sein de la communauté urbaine. Hein, donc c'est géré par la communauté urbaine, donc anciennement ce qu'on appelait CUDL, qu'on appelait LMCU, qui s'appelle désormais MEL, donc Métropole Européenne Lilloise, et elle a la compétence en la gestion des déchets, qu'ils soient ménagers, encombrants ou artisans. Donc la ville, nous on ne gère pas, c'est ça, c'est géré directement par la MEL, c'est elle qui met en place le système de ramassage, c'est elle qui décide de la modalité du tri. Donc là, il faudrait plutôt prendre rendez-vous avec le service résidus urbains de la métropole européenne qui, effectivement, pourrait vous répondre sur pourquoi, effectivement, la MEL a mis en place le tri sélectif. Mais bon, c'est pour répondre à une norme européenne obligatoire qui dit qu'effectivement, chaque concitoyen doit viser à réduire ses déchets. C'est toujours le même objectif. Hein, et revaloriser les matières premières de façon à les recycler. La mairie, enfin, au sein de la communauté urbaine, les mairies ne gèrent pas eux-mêmes les déchets ménagers.
D'accord.
Gérés de compétences communautaires.
Le zéro déchet est-il une loi, un droit ou un devoir?
Je ne pense pas que ce soit une loi, un droit. Donc c'est pas un droit non plus, c'est pas une loi, c'est pas un droit. C'est plutôt un acte civique basé sur la base du volontariat. Hein, donc il n'y a pas d'obligation à une personne de faire du zéro déchet. Par contre, chaque habitant de la MEL a obligation de trier ses déchets.
D'accord.
Hein, donc voilà, donc on est obligé, de par le système de collecte des déchets ménagers qui nous l'impose, de trier nos déchets. Donc en fonction des collectivités, ça se fait soit ce qu'on appelle le biflux, soit sur le monoflux. Donc le biflux, c'est qu'on tire vraiment carton d'un côté, verre de l'autre, les déchets végétaux à vocation d'être en biogaz de l'autre, et les ultimes. Et en monoflux, si on regroupe tout ce qui est recyclable, donc verre, carton, papier, alu, acier, etc., et d'un côté, tout ce qui est non recyclable. Et donc, hormis ça, où on a une obligation en tant que riverain sur la collectivité de répondre à ce tri pour que nos poubelles soient ramassées, il n'y a pas d'obligation de faire du zéro déchet sur une collectivité. C'est un engagement citoyen. Donc, sur l'homme, en fait, on va l'appliquer juste que maintenant, je dirais. Donc, c'est vrai que pour l'instant, pourquoi vraiment mis en application. Ça, c'est mon collègue qui travaille au sein d'un quartier du Marais avec un petit groupe d'habitants.
Oui.
Qui va mettre en place ça, qui va les sensibiliser sur comment mettre en pratique le zéro déchet, comment viser justement à, au bout de 3 mois à diminuer, voire tendre vers zéro déchet produit avec des moyens simples qui sont les commandes en vrac, les commerces de proximité, l'utilisation de recyclage pour le compostage, etc. etc. Mais effectivement, si demain vous voulez continuer d'utiliser des boîtes de conserve ou des boîtes de céréales, il n'y a rien qui vous en empêche.
Pourquoi avez-vous organisé cette collecte d'objets?
C'est déjà mon propre recyclage avec TerraCycle. Je faisais des cartouches de café et ça rapportait de l'argent à des associations. Et quand ils ont mis en place la brigade pour les instruments d'écriture, j'ai vu le potentiel pour tout le collège. Et donc on a mis en place avec Madame de Sauvet.
Et pourquoi celle-ci et pas une autre?
Dans un collège, la récupération d'instruments d'écriture, ça s'y prête bien. C'est là que je suis sûre de faire un carton.
Comment sont recyclés les stylos?
Alors, ils sont envoyés dans l'entreprise TerraCycle, qui est une entreprise de recyclage international. Et après, ils sont retravaillés pour donner d'autres objets, comme des arrosoirs.
Est-ce que cette collecte rapporte de l'argent?
Oui, l'année dernière, on a ramené 25 kilos d'instruments d'écriture. On a récupéré 40 euros pour deux associations, l'une pour les enfants et l'autre pour des familles défavorisées.
Comment avez-vous eu cette idée?
C'est une question de solidarité. C'est tout. C'est ma façon de participer à des bonnes actions.
Merci de nous avoir écoutés. Au revoir à tous.
Waouh, je ne m'y attendais pas. L'EMC fait maintenant partie du programme au lycée comme au collège. Mais qu'est-ce que c'est? Ilias et Clara vont pouvoir vous en parler.
Bonjour à tous, nous sommes Clara et Ilias. On va vous parler de l'EMC qui signifie éducation morale et civique. Alors l'EMC, qu'est-ce que c'est?
L'EMC a été initié vers 2013 par Vincent Peillon qui était un ministre de l'éducation. C'est censé remplacer l'éducation civique. Cette matière a été mise en place au programme le 1er septembre 2015 à cause des attentats de janvier 2015.
L'objectif est d'aborder les principes fondateurs de la République, comme par exemple la dignité, la liberté, l'égalité, la solidarité ou le respect envers toutes les personnes. L'EMC est donc enseigné par les professeurs d'histoire géo et par la suite par d'autres professeurs.
Quel est le contenu des cours d'EMC? Les cours s'articulent autour de 4 dimensions? Lesquelles?
Les cours s'articulent autour de la sensibilité, la règle, le droit, le jugement et l'engagement. Saurais-tu m'expliquer ce que voudrait dire la sensibilité et la règle et le droit?
La sensibilité est une réelle nouveauté au programme qui permet à l'élève de se rapprocher de ses émotions et celles des autres, pour mieux les identifier, afin de s'orienter au quotidien. Ainsi, la règle et le droit appellent au savoir-vivre de chacun. Et toi, pourrais-tu m'en dire plus sur le jugement et l'engagement?
Waouh, tu m'épates. Moi, ce que je sais sur le jugement, c'est qu'il incite les élèves à comprendre et à discuter de leurs choix moraux, pour encourager le pluralisme des opinions et inciter chacun à développer son esprit critique. Puis enfin, l'engagement permet aux élèves de devenir acteurs de leurs choix et de s'intégrer à la vie sociale de l'école.
Merci pour ces informations. Sais-tu combien il y a d'heures il y a parlé?
Il me semble que c'est environ 1 heure toutes les 2 semaines, mais que c'est assez varié.
À très bientôt.
Très intéressant. Maintenant, nous passons à Antoine et Maxime pour nous parler du vote au lycée.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes allés interviewer des lycéens pour connaître leur avis sur les élections présidentielles de 2017. Nous espérons que ça vous plaira.
Tout de suite, écoutons leur avis.
Est-ce que vous trouvez ça dur de voter en tant qu'élève?
Oui, car on n'est pas forcément renseigné sur
le programme détaillé des candidats et de pouvoir choisir notre orientation.
Oui, vu que c'est une étape assez nouvelle, ça ressemble plutôt à un événement d'adulte, si on peut dire. Et donc pour nous, c'est tout nouveau, ce sont de nouvelles responsabilités. Et on sait que ça va déterminer notre avenir, donc c'est une lourde tâche à effectuer.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de programmes et beaucoup de candidats, et aussi notamment beaucoup de partis politiques en France.
Alors ça dépend des candidats qui se présentent. On ne sait pas comment la situation du pays elle peut évoluer. Donc on verra aussi quelle personnalité arrive à l'élection présidentielle.
De nos jours, c'est assez difficile parce qu'on doit prendre en compte plein de choses. Donc, il faut faire très attention au programme et essayer de s'informer au maximum sur ce qu'ils présentent et ce qui nous intéresse aussi.
Et êtes-vous content de pouvoir participer au vote des élections présidentielles ?
Oui, vu qu'on prend en considération notre voix maintenant, on peut compter vraiment parmi les citoyens. Et on sent que notre avis peut compter et va être pris en compte. Et il n'y a que grâce à ce vote que l'on va pouvoir s'exprimer, vu que sinon on n'a pas tout le temps le moyen, mis à part des événements comme des manifestations, tout ça, mais de s'exprimer publiquement et de pouvoir choisir ce qui va définir notre vie dans le futur.
Oui, bien sûr. Aujourd'hui, le vote est important en tant que citoyen.
Oui, je suis très contente de pouvoir participer parce que c'est nouveau et enfin on va pouvoir dire ce qu'on pense et mettre notre main à la pâte à la société d'aujourd'hui.
Et quels sont vos critères de choix pour élire votre candidat ?
C'est le programme qu'il va proposer. En ce moment, ce sera plutôt, comme on est jeune, plutôt l'emploi, ce qu'il va proposer pour les jeunes. Après, on peut parler aussi de sécurité sur le plan économique. Mais c'est surtout la politique pour les jeunes qu'ils vont choisir et qu'ils vont vouloir orienter qui va déterminer notre choix de candidat.
Celui qui me représente le mieux, qui répond le mieux à mes idées, à nos envies, et puis qui permettra d'avoir une meilleure situation peut-être dans le futur.
Le chômage, par exemple, on devrait prendre en compte l'emploi. Pour les jeunes aussi, qu'est-ce que les présidents pourront faire pour nous ? Et aussi la sécurité avec tout ce qui se passe en ce moment, je pense que c'est primordial.
Comme l'ont évoqué mes camarades, je vais prendre en compte ce qu'ils proposent pour les jeunes. Ce qu'ils proposent pour réduire le chômage, pour créer de l'emploi, pour redresser le pays. Et je vais notamment tenir compte également de la personnalité personnage qui se présente.
Merci de nous avoir écoutés et de rester autant fidèles.
Merci Antoine et Maxime. Merci aussi à vous de nous avoir écoutés.
J'espère que ça vous aura plu. Et on vous revoit mi-mai au Salon du Livre à Saint-Odile. À bientôt. J'espère que vous serez nombreux. Bon après-midi.
I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. When you dance, 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 feel good, good creeping up on you. So just dance, 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 go. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, 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 go.
Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenal.
so keep dancing. I can't stop the feeling, so just dance.